Merci Denis, merci de votre accueil. C'est un plaisir pour moi aussi d'être là. C'est la première fois que je viens ici, dans cet endroit, même si j'en avais beaucoup entendu parler. Et donc, je me réjouis de traiter avec vous ce sujet. Enfin, de le traiter, c'est beaucoup dire, mais de l'aborder, hein, parce que c'est une vaste question. Je vais vous dire franchement que c'est un sujet qui me passionne. La question des chants, en famille, quand on sort du culte, le grand sujet, c'est qu'est-ce qu'on a chanté, est-ce que j'aime ce chant, j'aime pas celui-là, et hop, on les reprend et tout. Enfin bon, pas pendant le repas, mais presque. Hein, j'aime beaucoup chanter, je vais pas chanter, rassurez-vous, mais j'aime beaucoup les cantiques, et j'aime beaucoup réfléchir à cette question, qui est une question très importante, passionnante, du culte, et donc de la place des chants dans le culte. Alors, évidemment, parler de chants dans le culte, c'est... On pourra peut-être mettre le PowerPoint. Parler des chants dans le culte, c'est parler du culte, d'abord. Hein. Et c'est présupposer que nous sommes tous d'accord sur ce qu'est le culte, ce qui n'est peut-être pas une évidence. Si on faisait une enquête, on aurait peut-être des surprises. Donc, voilà le programme que je vous propose de parcourir. Je vais commencer par rappeler un certain nombre de données sur le culte, dans la perspective du chant, hein, pas de manière générale, mais en nous posant chaque fois la question du chant, des cantiques. Donc, en commençant par ce qu'est le culte, les équilibres du culte, c'est un petit retour en arrière sur l'histoire, comment on a fait dans le passé, en tout cas à certains moments, et puis des éléments un peu plus précis, des exemples de temps de culte, du temps particulier du culte, avec les chants qui vont avec. Je ne sais pas si on pourra aller jusqu'au bout, mais je m'arrêterai quand ça sera l'heure. Denis, qu'est-ce que j'ai fait de la télécommande ? Ok, alors, si on commence par le premier point, que faisons-nous ? C'est une question qui est importante pour moi dans ma démarche théologique, puisque mon domaine, c'est la théologie pratique, Denis l'a dit, et la théologie pratique, ça consiste notamment à se demander, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, nous sommes dans l'action, nous sommes des actifs en général, hein, les évangéliques sont actifs, les ménonites sont connus pour leur action, et donc, voilà, à un moment donné, il faut aussi s'arrêter et se dire, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Alors, quand on se rassemble pour un match de foot, on sait pourquoi on est là. On parlait de foot ce matin avec quelques-uns, on sait pourquoi on est là. On est là pour encourager, pour regarder un match. Quand on se rassemble dans une salle de concert, on sait pourquoi on est là. On est là pour écouter de la musique, pour jouer de la musique selon notre positionnement. Quand on se rassemble autour d'une table, souvent c'est pour manger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque l'Église se rassemble un dimanche matin, ou un samedi soir, ou un dimanche après-midi ? Imaginez un instant, vous êtes à un moment de culte, vous êtes rassemblés, une salle comme celle-ci, vous chantez, nous chantons, et puis il y a une personne derrière qui est là pour la première fois, qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et là, quelle est la réponse que vous apporteriez ? Hein, je vous laisse réfléchir juste un instant, mais si on y réfléchit, la réponse ne va pas de soi. Et on ne donnerait peut-être pas tous la même réponse. Parce que le culte, c'est un domaine qui est riche, un domaine qui est complexe, et on voit à peu près tous de quoi il s'agit, mais si on veut rentrer dans le détail, si on veut préciser les choses, définir les choses, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Ce qu'on peut peut-être commencer par dire, c'est qu'il n'y a pas de raison vraiment valable de se réunir le dimanche matin. On n'a aucune obligation, on n'a personne qui nous dit « il faut que tu y ailles ». Simplement, en tant que chrétien, on se sent mis en route et mobilisé par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, et on se retrouve là, ensemble, en tant qu'Église, poussé par un besoin spirituel, hein, avec les personnes, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, que le Seigneur a mis à nos côtés, les gens de chaque génération, et on se retrouve là ensemble pour un temps particulier. Donc, lorsque nous parlons de culte, eh bien, il faut commencer par dire ceci, nous nous réunissons. Le culte chrétien, c'est un temps communautaire de la vie de l'Église. J'aime beaucoup cette phrase d'Émile Nicole que j'ai trouvée dans un article que je vous recommande qui s'appelle « Faut-il parler de culte ? Faut-il encore parler de culte ?» Du culte, ou de culte, je ne sais plus. Un article d'Émile Nicole sur ce sujet. Et il dit ceci tout simplement, l'Église doit se rassembler c'est inhérent à sa nature. L'Église doit se rassembler. On se retrouve régulièrement parce que c'est comme ça, ça fait partie de ce que nous sommes. Et donc, on parle de culte communautaire à propos de ces rassemblements. Ce qui veut dire que, mais ça vous le savez, ce ne sont pas quelques-uns qui font le culte pour les autres, ce ne sont pas les musiciens qui font le culte pour les autres, ce ne sont pas les présidents de culte, les prédicateurs qui font le culte pour les autres, mais c'est une communauté qui se rassemble pour faire un culte, pour rendre un culte au Seigneur. Et ça, c'est important parce que dire que le culte est communautaire, c'est dire que chacun est participant, et on comprend tout de suite que le chant occupe une place importante dans le culte, parce que le chant, c'est le moyen d'expression collective par excellence. C'est le moyen idéal parce qu'il permet à tous de participer. Qu'on sache chanter ou qu'on ne sache pas chanter, par le simple fait d'être là, même peut-être de se lever avec les autres, même si on ne chante pas, de ouvrir la bouche, de chanter un refrain, eh bien, il y a une unité communautaire qui s'exprime. Il y a une communion qui se manifeste. Et donc, ça, c'est très important. Le culte est un temps communautaire et le chant est porteur de cette communauté, il est porteur de cette unité. J'observe aujourd'hui, dans un certain nombre de nos églises, une tendance qui me rend un petit peu perplexe, c'est, je vais la caricaturer, vous m'excuserez, cette tendance qui consiste à dire « faites ce que vous voulez ». Hein, alors je m'étais à ma place, je suis président du culte, vous êtes les chrétiens rassemblés, et je lui dis bah, « faites ce que vous voulez, hein. Vous voulez vous lever, levez-vous, vous voulez vous asseoir, asseyez-vous, faites ce que vous voulez ». Bon. Je comprends la logique, hein, et une liberté, c'est bien, et c'est normal. En même temps, dans le culte, on ne fait pas ce qu'on veut. Dans le culte, on fait ensemble quelque chose. Cette dimension communautaire, elle est importante parce qu'elle est inhérente à ce qu'est le culte. Nous chantons ensemble, nous nous levons ensemble, nous asseyons ensemble, nous prions ensemble, nous écoutons la parole de Dieu ensemble. Ça, c'est fondamental. Donc, nous nous réunissons. Si vous voulez, ce que je veux dire, pour le dire autrement, c'est que le culte de l'Église chrétienne, c'est pas 100 petits cultes les uns à côté des autres, hein, chacun sur sa chaise, c'est un seul culte qui est le fruit de 100 voix qui s'élèvent vers le Seigneur, ou de 200 oreilles qui écoutent la parole du Seigneur. Nous nous réunissons, tout ce que je dis vous le savez déjà, mais ça fait parfois du bien de le réentendre, dans la présence de Dieu, donc nous nous réunissons les uns avec les autres, mais évidemment, il faut ajouter que le rapport à Dieu est fondamental pour l'identité chrétienne. Le culte chrétien repose sur cette promesse fondamentale de la présence divine au sein de la communauté rassemblée. Présence du Christ, présence de l'Esprit du Christ. 1 Corinthiens 3,16 le dit très bien, vous êtes le temple de Dieu. Et donc, quand il est dit « vous êtes le temple de Dieu », c'est pas « toi, toi, toi », c'est « vous, ensemble ». Hein, c'est bien sûr le croyant lui-même individuellement est aussi le temple de Dieu de son corps, c'est dit dans la même épître, mais en 1 Corinthiens 3,16, c'est vous êtes le temple du Saint-Esprit plus précisément, et c'est la communauté rassemblée qui est le temple du Saint-Esprit. Beaucoup de nos chants, et je dirais même tous nos chants, prennent en compte cette présence de Dieu. Tous nos chants sont liés à Dieu, parlent de Dieu, s'adressent à Dieu. Nous ne faisons pas le culte comme si nous étions seuls, comme si Dieu n'était pas présent. La présence de Dieu est assurée, c'est un acquis, c'est une donnée. Nous n'avons même pas, par nos beaux chants, à inciter Dieu à se rapprocher de nous, à venir. Il est là, sa présence est acquise. Et donc, la communauté chante parce qu'elle célèbre la présence de Dieu en son sein. Et ça, c'est aussi un élément très important du chant et du culte. Nous nous réunissons dans la présence de Dieu pour apprendre. C'est-à-dire que vous allez sortir du culte, pas comme vous êtes entré, normalement. Vous allez sortir d'un moment de louange, non pas comme vous êtes entré, mais en ayant appris quelque chose, en ayant été formé, en ayant été façonné par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la communion fraternelle. Plusieurs auteurs aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous avez lu le livre de David Peterson qui s'appelle « En esprit et en vérité » que je vous recommande, qui parle justement du culte. David Peterson et d'autres insistent sur ce fait, la communauté chrétienne se rassemble pour apprendre. La formation est essentielle, le culte est un temps de formation, est un temps d'édification de l'Église. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée, mais quels sont les arguments? Ces auteurs notent que lorsque Jésus rassemble ses disciples autour de lui, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils leur parlent et ils écoutent. Hein, ils ne chantent pas des cantiques ensemble. Désolé. Mais Jésus s'adresse à ses disciples, il les forme, il les façonne, et ensemble, ils apprennent ce que signifie être chrétien, ce qu'est l'Évangile. Et de même, ces auteurs observent aussi la place importante, essentielle qu'occupe l'enseignement, qu'occupe la formation dans les Épîtres et dans les Actes du Nouveau Testament. Et d'ailleurs, Jésus, en Matthieu 28, dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur, pas forcément à chanter, mais à devenir des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, enseignez-leur ma parole. » Je vous rappelle ce verset de Colossiens 3:16 qui est important pour notre réflexion, que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Vous voyez que dans ce verset, même les chants sont intégrés à ce processus pédagogique. La communauté se rassemble pour apprendre, et tout doit la former, tout doit contribuer à ce qu'elle apprenne, y compris les chants, y compris les cantiques, y compris les prières, y compris la scène, y compris l'offrande, y compris tous les éléments du culte. Nous sommes rassemblés pour apprendre par tous les moyens possibles, parce que nous voulons mieux connaître le Seigneur, mieux le servir et mieux aimer notre prochain. Nous nous réunissons donc dans la présence de Dieu pour apprendre et pour parler à Dieu, naturellement. Je dirais même que c'est ce qui nous vient le plus spontanément. Je suppose que si au début de mon intervention, je vous avais donné la parole pour vous dire, à propos, vous savez, de cette personne qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit « qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?», beaucoup d'entre vous, je pense, auraient répondu « nous parlons à Dieu, nous adorons Dieu ». Nous sommes réunis pour célébrer, pour adorer, pour louer le Seigneur. C'est ce qui nous vient le plus spontanément, et c'est logique. Parce que dans la mesure où Jésus-Christ est au centre du culte, dans la mesure où la parole de Dieu est lue, dans la mesure où elle est proclamée, alors il est évident que nous, chrétiens, nous réagissons par l'adoration. Nous réagissons en répondant à Dieu. Dieu nous parle par sa parole et nous lui répondons par l'adoration. Une adoration qui est quelque chose de riche, parce que nous le savons bien, adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter « Je t'adore hein, », on est d'accord, je pense que ça, c'est tout le monde le sait, mais adorer Dieu, c'est recevoir sa parole favorablement et en tirer les conséquences. Répondre au Seigneur en fonction de ce qu'il nous a dit. On peut citer comme élément biblique hein, pour cette idée d'adoration, le culte de l'Apocalypse. Vous voyez cette image de l'Apocalypse, où vous avez cette vision céleste de Dieu qui est là, au centre, et puis son peuple, le peuple de tous les lieux, de tous les temps, de toutes les cultures, qui est là, et que fait ce peuple? Eh bien, il chante des cantiques, il adore Dieu. C'est-à-dire qu'il parle à Dieu, il s'adresse à Dieu. Et ces descriptions de l'Apocalypse sont très belles, elles ont suscité des cantiques d'ailleurs, elles ont donné naissance à de beaux cantiques aujourd'hui et hier, et elles nous permettent de bien comprendre que le culte chrétien a Dieu et Jésus-Christ en son centre, comme dirait Jenny, et que cette présence de Dieu, eh bien, elle suscite l'adoration du peuple de Dieu. Cette adoration, elle n'est pas automatique, vous le savez. Cette adoration, elle est rendue possible par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui oriente ma réaction. J'entends la parole de Dieu, je réponds par l'adoration, mais c'est pas automatique, parce que ma réponse humaine, c'est plutôt de dire « Seigneur, tais-toi, je ne veux pas entendre ces choses-là. » Jonas, hein, j'entends d'aller dans ce sens, mais je vais dans l'autre sens. C'est le Saint-Esprit qui oriente mon être intérieur pour que je puisse répondre au Seigneur par l'adoration. Ce qui est intéressant, c'est que depuis toujours, les chrétiens ont été connus pour cela. Un auteur romain du 1er siècle, Pline le Jeune, avait noté que les chrétiens ont l'habitude de se réunir à jour fixe avant le lever du soleil. Bon, ça... de chanter entre eux alternativement un hymne au Christ comme à un Dieu. Voilà, ils étaient connus pour cela, les chrétiens, s'adresser au Christ, s'adresser à leur Dieu Jésus-Christ, et à lui chanter des cantiques, c'est-à-dire à s'adresser à lui, à lui adresser leur adoration, leur prière, notamment par, par le chant. L'originalité du culte chrétien, hein, elle est là depuis le début, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans nos cantiques, nous ne chantons pas un Dieu générique. Ce n'est pas Dieu, Dieu n'importe lequel, ou le Dieu inconnu, ou le Dieu que vous voulez, qui a, c'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ que nous chantons, et c'est Jésus-Christ, le Fils du Père Céleste, Créateur, que nous célébrons. Donc ça, c'est aussi l'originalité, et c'est bien sûr normalement ce que disent nos cantiques. Hein, nos cantiques ne s'adressent pas à un Dieu qui pourrait être n'importe lequel, mais ils s'adressent au Dieu de Jésus-Christ. Romains 15, 16 ne dit pas autre chose. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien cette petite définition qui est inspirée de Martin Luther, du réformateur, et, alors qu'il ne résout pas tous les problèmes, mais qui a l'avantage de la simplicité. Voilà ce qu'il dit. Dans le culte, il ne doit rien se passer d'autre que le fait que notre bien-aimé Seigneur parle lui-même au moyen de sa sainte parole, et que, à notre tour, nous parlons avec lui par la prière et le cantique de louange. C'est bien dit. Nous nous réunissons donc dans la présence de Dieu pour apprendre, pour parler à Dieu, et pour parler ensemble, entre nous, de ce qui est important pour nous et pour les gens qui nous entourent. C'est-à-dire que le culte, c'est aussi ce moment où l'Église rassemblée exprime sa foi. C'est ce que nous faisons en particulier lorsque nous partageons le pain et le vin. Nous disons, nous croyons que le Seigneur Jésus a été livré pour nous. Nous disons, nous croyons que son corps a été donné pour nous, que son sang a été versé pour la nouvelle alliance. Nous disons que nous croyons en lui. Nous disons que nous croyons en son salut. Et nous le disons ensemble. C'est pas seulement je le crois. Bien sûr, le nous suppose un je, mais c'est au-delà du jeu, c'est nous croyons ensemble, nous Église réunis, que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est le Sauveur. D'ailleurs, on dit le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ, etc. La coupe de bénédiction que nous bénissons est la communion au sang du Christ. L'Église rassemblée parle de ce qui est important pour elle, c'est-à-dire qu'elle exprime sa foi et elle confesse sa foi de tous les moyens possibles, mais notamment par des prières et par des chants. Je ne sais pas si vous pensez à des cantiques qui expriment la foi de l'Église de manière toute particulière. J'ai pensé à il y a le fameux Graham Kendrick, « Nous croyons », qui bon, c'est un peu évident, mais « Nous croyons en Dieu le Père, Créateur de l'univers, et en Jésus-Christ son Fils ». Mais de Dieu par l'Esprit Saint, je ne sais plus exactement la suite. Il y a aussi un beau cantique, Mystère de Jésus-Christ, toujours de Graham Kendrick, qui exprime cette particularité du Seigneur Jésus-Christ. Homme et Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu, réunis en parfaite harmonie, roi, humble de cœur, etc. Un beau cantique, et il y en a beaucoup d'autres, hein, qui expriment la foi de l'Église. Nous chantons ce qui est important pour nous, nous chantons ce que nous croyons. Et je voudrais ajouter, et c'est très important aujourd'hui, nous parlons ensemble de ce qui est important pour nous et nous en parlons aussi avec ceux qui nous visitent. Vous avez remarqué que dans nos cultes, il y a souvent des visiteurs. Il y a des gens qui viennent pour la première fois. Il y a des gens qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi, invités par quelqu'un, ou parce qu'il y a un baptême, ou parce que quelqu'un, ils ont entendu parler de l'Église ou autre. Eh bien, à ces gens-là aussi, nous parlons de ce qui est important pour nous. Et donc, lorsque nous réfléchissons au culte, lorsque nous réfléchissons au chant, il faut avoir en tête aussi ces personnes-là. Ces personnes qui nous visitent, ces personnes qui sont là pour la première fois, ces personnes qui ne sont pas des initiés, hein, qui ne comprennent pas tout notre discours, mais qui disent assez souvent que les cantiques les ont touchés. Qui disent que nos cantiques, nos chants, notre musique leur a permis d'entrer dans le culte, de goûter un petit peu de ce que nous vivons. Et ça, c'est très important. Parce que non seulement ces personnes qui viennent, ces non-croyants, ou ces personnes en recherche, ou ces personnes qui sont un peu hésitantes, qui sont un petit peu en marge, non seulement elles vont entendre l'Évangile prêché, mais elles vont pouvoir aussi y goûter un petit peu par la participation au chant, par la participation à la prière, par un petit peu de communion fraternelle avec les frères et sœurs. Voilà quelques éléments, donc je résume les choses assez bref, mais le culte aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On lève le nez du guidon, on s'interroge, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ces chants que nous choisissons dimanche après dimanche, pourquoi? Donc, quelques éléments qui peuvent nous aider. Alors j'en arrive maintenant à une partie 2 qui est celle des équilibres du culte. Dans le culte, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs choses à prendre en compte, et j'en ai choisi quelques-unes pour montrer comment elles influent dans le choix des cantiques également. Le culte du dimanche, à cause de sa dimension collective et puis ponctuelle, c'est le dimanche, bon, comme samedi, je ne sais pas, ça dépend des églises, hein, le dimanche après-midi, eh bien, il peut être qualifié d'événement. Dans un sens, c'est un événement. Et cet événement-là, il va falloir le situer par rapport au reste de la vie, par rapport au quotidien, par rapport à la vie ordinaire des croyants. Je suis encore dans le petit déjeuner. Par rapport au lundi matin, si vous voulez. Hein, quel est le rapport entre le dimanche matin et le lundi matin? Les données bibliques, bien sûr, nous montrent que le culte n'est pas limité à un moment particulier. D'ailleurs, parler de culte à propos du dimanche, c'est impropre, on ne devrait pas. Le culte, dans le Nouveau Testament, c'est pas seulement la prière ou le chant du dimanche, c'est l'engagement, c'est le service, c'est le travail du lundi matin et du reste de la semaine. C'est la mission de l'Église, ça vous le savez. Les données bibliques suggèrent que les rassemblements de l'Église sont des lieux privilégiés de la présence de Dieu, de la rencontre avec Dieu, donc de l'expérience spirituelle, donc de la maturation spirituelle des croyants. Mais bien sûr, Dieu est présent dans le quotidien. Dieu est présent dans mon service de tous les jours, Dieu est présent dans mon travail, dans mes relations familiales, dans mon témoignage, etc. C'est pour ça qu'il est très important qu'il y ait un lien entre ces deux dimensions et qu'il y ait un équilibre entre ces deux dimensions, qu'il y ait un rapport entre le culte vécu comme quotidien, du lundi au samedi, on va dire, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et le culte comme événement du dimanche. Et il est important que les musiciens, les présidents de culte, les prédicateurs, les présidents et autres intervenants aient conscience de cette réalité. Parce qu'il faut qu'ils puissent inscrire l'événement dans l'ordinaire de la vie, dans le quotidien. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Et ça arrive avec un certain nombre d'entre nous aujourd'hui, nous, les chrétiens, eh bien, on court d'un événement à un autre. Notre vie est faite en pointillé, une série d'événements qui se situent en dehors de l'expérience quotidienne, en dehors de notre réalité quotidienne. Et puis donc, il n'y a plus tellement de rapports. Ça arrive aussi que finalement, cette poursuite de l'événement fasse que, eh bien, on connaît les cantiques, on sait prier, on sait faire ce qu'il faut le dimanche matin, mais finalement, on ne fait rien de respect. Le reste du temps, on est chrétien que le dimanche, comme on le dit parfois. Le culte, donc, ce n'est pas que le dimanche, on ne peut pas louer Dieu des lèvres le dimanche matin, vous le savez, et vivre comme on l'entend le reste de la semaine. Je n'insiste pas, c'est évident, c'est le message des prophètes, c'est le message de Jésus, c'est le message de toute l'Écriture. C'est une question d'authenticité de la foi et du culte. Et donc, au niveau des chants, qu'est-ce que ça signifie? Je pense que cet équilibre nous incite à une certaine modestie, parce que nous ne sommes pas aussi consacrés, nous ne sommes pas aussi pleins de l'amour de Dieu que nous le chantons, que nous le prions. Et ça, la réalité nous le rappelle très vite. Nous chantons « Que ma vie soit toute à toi », chant consécration que j'aime beaucoup. Nous chantons « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien », c'était un plus classique. Mais évidemment, ça pose la question du rapport au reste de la semaine. Car cette vie toute à toi, ce n'est pas seulement la vie du dimanche. C'est la vie complète. Et donc, cette dimension globale du culte va influencer notre façon de chanter. C'est-à-dire que le culte du dimanche influe sur le culte du reste de la semaine, et le culte du reste de la semaine influe sur notre culte du dimanche. Alors, j'ai observé, et j'ai discuté beaucoup avec des gens à ce propos, et j'observe que certains disent, ben, du coup, je ne peux pas chanter ces chants-là. Je sais que je ne suis pas aussi consacré, que je n'aime pas autant le Seigneur que ça, donc je me tais, je préfère arrêter de chanter mon amour fou pour le Seigneur et ma consécration. Bon, je comprends le souci de vérité, hein, c'est respectable, mais je préfère une autre approche. Je préfère, et c'est ce que je fais pour ma part, chanter cette consécration, chanter cet engagement, chanter cet amour du Seigneur en gardant les pieds sur terre et en gardant les yeux ouverts, au moins métaphoriquement, que je ferme les yeux, mais en gardant les yeux ouverts sur ma réalité et sur la réalité de ma foi. Quand je chante tout à toi, Seigneur, eh bien je le chante comme un désir de donner ma vie au Seigneur, de me consacrer au Seigneur. Quand je chante « Je t'aime, Seigneur », je le chante comme une prière. « Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Seigneur, tu sais que, bon, tu connais la réalité de mon amour. Aide-moi à t'aimer concrètement, aide-moi à ne pas dissocier ces deux commandements fondamentaux que sont « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, voilà, chanter cet équilibre, je pense qu'il doit apparaître là, d'ailleurs, j'ai oublié de le mettre, chanter cet équilibre, les yeux ouverts, en sachant que, eh bien, je ne suis pas aussi chrétien que je le laisse paraître dans mes chants. Et donc, même en tant que responsable du chant, responsable du culte, leader du culte, leader du chant, prendre conscience aussi, ne pas laisser penser à l'Assemblée qu'elle est aussi consacrée, que les paroles du chant le laissent entendre. Et plutôt introduire ces chants comme une prière de consécration, une prière qui dit au Seigneur, « Seigneur, mets ce désir dans mon cœur de t'aimer, mets ce désir dans mon cœur de te servir. » Un autre équilibre, qui est un équilibre intéressant entre le monde spirituel et le monde terrestre. Finalement, à quel monde appartient le culte ? Monde terrestre, monde céleste. Parfois, on vit le culte comme une extraction du monde terrestre. Alors, ça rejoint ce que j'ai dit à l'instant, hein, la réalité présente. Et puis, c'est comme si on était transporté dans le monde de l'Apocalypse, hein, le monde céleste dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est justifié ? Dans un sens, peut-être. Parce que le culte est un moment particulier de la présence de Dieu et il est possible qu'il y ait dans le culte cette expérience dont parle le livre des psaumes, cette expérience de l'ombre des ailes du Seigneur, hein, à l'ombre de tes ailes, chantent les psalmistes. Mais l'ombre des ailes du Seigneur, être à l'ombre des ailes du Seigneur, ce n'est pas être hors du monde. C'est bénéficier d'une intervention de Dieu dans le monde. C'est bénéficier d'un temps de salut dans le quotidien. Dans la réalité, c'est un moment de répit, un moment de sabbat, on pourrait dire. Et oui, le culte est comme ça. Mais le culte ne peut pas nier la réalité. On ne peut pas le concevoir comme un moment hors du monde. Et je trouve que l'adoration, les chants des psaumes, l'adoration du livre des psaumes est une adoration réaliste. Excusez-moi de le dire, mais le chanteur des psaumes, il a les pieds dans la boue. Hein ? Pour ne pas dire plus. Il chante comme quelqu'un qui se salit les mains parce que la vie est compliquée, parce que les choses sont douloureuses, parce que on a envie à la fois de dire au Seigneur je t'aime, mais en même temps je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Pourquoi tu fais ça ? Et donc, l'adoration de nos cantiques, l'adoration du culte, ce n'est pas un moment où on va s'extraire du monde et oublier le monde. Mais c'est un moment où on va orienter nos cœurs et nos pensées vers le Seigneur, ce qui va nous amener en retour à regarder le monde différemment et à regarder la réalité différemment. Ce n'est pas que la réalité est changée, ce n'est pas qu'on puisse sortir de cette réalité, mais le fait de tourner les yeux vers le Seigneur, le fait de le chanter, de le célébrer, de le prier, de nous repentir aussi devant lui par nos chants, par nos prières, eh bien ça va changer probablement notre regard sur le monde. Je vais le dire de manière assez prosaïque, mais si je vais au culte en ayant à la maison un enfant malade, avec peut-être mon conjoint qui reste pour le garder, eh bien je ne vais pas chanter comme si je n'avais pas d'enfant malade. Je ne suis pas extrait de la réalité parce que je suis dans ce temps de culte. Si je suis au chômage et que je viens au culte, eh bien je ne vais pas chanter comme si j'avais un boulot et comme si tout allait bien. Le chant, le culte n'est pas l'opium du peuple. On est d'accord, il faut qu'il y ait cette dimension réaliste, cette tension entre le monde spirituel qui est notre vrai Jérusalem, qui est notre vrai patrie et le monde terrestre, qui est notre demeure, présence, à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Et ce que je suggérerais pour le chant, c'est, pour traduire cette tension, cet équilibre, c'est d'un côté une louange joyeuse, d'un côté des cantiques dynamiques, porteurs d'espérance, porteurs de force de conviction, qui affirment la foi, qui admirent la grandeur de Dieu, qui célèbrent l'amour de Jésus-Christ et son salut, mais sans pour autant obliger les croyants à fermer les yeux sur la réalité de leurs conditions humaines et de leurs conditions personnelles dans le monde. Sans cet équilibre, eh bien, il va s'instaurer un décalage qui nous obligera à chanter à distance, à prier à distance, au risque de perdre l'authenticité de notre cœur. Un dernier équilibre, et j'en aurais fini avec ce point, l'intellect, l'intelligence, la réflexion et les émotions. Le culte sollicite toute la personne, et il sollicite en particulier notre intelligence et nos émotions. Il n'y a pas de raison de penser, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, que les émotions n'ont pas de place dans le culte. La joie, la reconnaissance, l'amour, la paix, l'émerveillement, évidemment ce ne sont pas que des émotions, mais ce sont aussi des émotions. Et il n'y a pas de raison de penser non plus que, quand on entre dans la salle de culte, on laisse son intelligence devant la porte, parce que le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. » Et donc, bien sûr, ça nous incite à entrer dans une démarche qui implique l'intelligence. Alors sur cette question, évidemment, les chants et la prière sont au premier rang, sont au premier plan de la réflexion. La prière, les chants, ce ne sont pas seulement des moments où l'on s'abandonne à ses émotions, mais ce sont des moments où les émotions sont sollicitées, bien entendu. La prière et les chants, ce ne sont pas des moments où on renonce à son intelligence, mais ce sont des moments où l'intelligence aussi est sollicitée. Vous pouvez avoir les deux écueils, on les observe aujourd'hui. D'un côté, des chants qui ne sollicitent que l'émotion, et donc qui disent en gros aux croyants, ouais, oubliez tout, switch off, éteignez votre intelligence et laissez-vous aller dans le chant. Ok, j'observe ça. Et vous avez d'un autre côté des chants ou des prières qui sont tellement compliquées, tellement qui nécessitent presque un dictionnaire avec pour comprendre que finalement ils ne sont plus le cri du cœur, ils ne répondent plus à l'aspiration du cœur des croyants, et donc les émotions sont éteintes dans cette démarche. J'observe que de tout temps les cantiques ont sollicité les émotions. Vous avez des beaux cantiques classiques comme un fleuve immense et la paix de Dieu. Vous avez cette image de la paix divine qui vient comme de l'eau, qui vient comme un cours d'eau de plus en plus puissant, qui devient d'ailleurs un océan à la fin du cantique, et qui entraîne tout ce qui s'oppose aux croyants et qui inonde le croyant de la paix du Seigneur. On retrouve un peu la même idée dans un autre classique, Torrent d'amour et de grâce, où on parle d'un torrent qui devient un fleuve, et qui représente l'amour de Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ, et le croyant peut s'abandonner pleinement à ce torrent, à ce fleuve, à cette grâce du Christ. La musique, évidemment, sollicite les émotions. Plus que les paroles, je suis tombé sur une étude intéressante qui montre que si vous... si vous mettez en contradiction la musique et les paroles, c'est la musique qui l'emporte. C'est-à-dire, si vous chantez des paroles tristes sur une musique joyeuse, c'est la joie qui l'emporte. Et vous pouvez arriver à chanter des paroles tristes sur un air très, très joyeux. C'est un petit peu ce qu'on fait avec le cantique Seigneur. Vous allez m'aider, hein. Seigneur a donné, béni soit son nom, qui est une plainte en fait. Hein, si on y réfléchit, comment c'est déjà les musiciens là.
Béni soit ton nom.
Oui,
tu donnes et tu reprends.
Tu donnes et tu reprends. Voilà, ça c'est une plainte. Seigneur, tu donnes et tu reprends, je ne vais pas me réjouir, hein. c'est quand même une plainte. Mais on le met dans un tempo dynamique, avec une orchestration vibrante de foi, et ça peut devenir un chant de joie, ce qui est quand même paradoxal. Donc la musique sollicite bien sûr les émotions. On parle d'expérience musicale, hein. La musique occupe une place dans toutes les expériences religieuses, au-delà de la foi chrétienne. Et c'est une expérience qui est difficile à définir, mais qui est là. Et donc, inévitablement, nos émotions sont impliquées dans le chant et dans la musique. Et donc, c'est intéressant de se demander, voilà, tel chant, tel cantique, est-ce qu'il sollicite nos émotions? Comment est-ce qu'il sollicite notre intelligence? Comment? De quelle manière est-ce que, par exemple, il va solliciter l'émotion de tristesse, hein, si c'est un cantique de repentance? Est-ce qu'il va... quelle émotion de joie il va faire naître? Pourquoi? De quelle manière? Est-ce que c'est par la musique, par les paroles? Comment les deux se joignent, hein, dans cette démarche? Est-ce que tel cantique va solliciter mon intelligence? Comment? Peut-être par son esthétique, par la qualité de ses images, peut-être par sa créativité, son originalité. Bref, les deux sont importants et ont leur place dans le culte. Voilà quelques éléments. Alors, bon, je ne sais pas ce que je vais faire, il me reste 5 minutes. On avait dit 40 minutes à peu près, donc j'ai 4-5 minutes. Je vais dire un petit mot de l'histoire et puis on verra. Ensuite, on terminera, puis il y aura une table ronde pour discuter. Un petit mot de l'histoire parce que quand même, c'est intéressant de savoir comment les autres ont fait avant nous, parce que vous savez que cette question du chant, hein, on se la pose aujourd'hui, on se la posait hier, on se la posait avant-hier. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais je trouve intéressant de revenir un instant sur la réforme protestante, sur le XVIe siècle, et puis sur l'héritage, parce que vous allez voir que c'est très actuel. Parce que qu'est-ce qui se passe au moment de la réforme? Je le dis de manière très schématique, très simpliste, mais il se passe d'abord que la réforme, c'est la réintroduction du sens. C'est-à-dire que le culte devient compréhensible et Martin Luther, au moment de la réforme, en quelque sorte, va faire un travail de traduction. Il veut que les gens comprennent ce qui se passe pendant le culte. Et il faut que les gens comprennent en particulier les cantiques, qu'on comprenne ce qui est dit, ce qui est chanté. Ça veut dire que désormais tout le monde peut comprendre le culte. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'est l'esprit de la réforme, c'est ce dont nous sommes les héritiers. Que la liturgie du culte, que la prédication, que le chant, tout ça soit compréhensible. Qu'on parle un langage qui est celui de tous les jours. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un langage religieux spécialement, même si on a des mots évidemment religieux, mais un langage compréhensible. La réforme, c'est aussi ce moment où la parole retrouve la place qui lui revient. Enfin, vous le savez, on réintroduit dans le culte la lecture de la Bible, la prédication de la Bible, et tout s'organise autour de cette parole. Ça veut dire que le culte protestant n'est plus, comme c'était le cas avant avec la messe antérieure, ce n'est plus un spectacle musical en quelque sorte, mais c'est un temps qui a un sens, et ce sens est donné par une parole, et c'est autour de cette parole que tout s'organise, les prières, les chants, et tous les autres éléments du déroulement. Et puis, et ça je trouve ça très, très intéressant, le chant redevient collectif. Est-ce que vous savez qu'avant la réforme protestante, les gens ne chantaient pas dans le culte? Les gens ne chantaient pas. C'était le chœur des prêtres qui chantait et l'auditoire était passif de ce point de vue-là, pour autant qu'ils comprennent d'ailleurs ce qui se passait. Hein, mais il y avait de très beaux chants, une très belle qualité esthétique, le chant grégorien, une très belle liturgie, mais le chant n'était pas communautaire. Et avec la réforme, on va réintroduire dans les églises, par la porte principale, le chant collectif. Tout le monde peut chanter, et ce chant collectif va rester jusqu'à aujourd'hui comme un élément fondamental du culte chrétien. Ça veut dire que la parole est donnée au peuple. Ça veut dire qu'il est très important que dans le culte d'aujourd'hui, eh bien, le chant ne soit pas fait par quelques-uns, même s'il peut y avoir des solos, hein, ça c'est pas un problème, mais que, de manière générale, eh bien, tous participent et que tous soient impliqués, tous puissent se reconnaître dans ce qui est chanté, tous comprennent ce qui est chanté et tous puissent y participer. Et puis, j'ajoute un dernier point, le culte se simplifie. Avec parfois des éléments intéressants, certains ont voulu vraiment tout supprimer du culte. Il faut dire que le culte antérieur était assez sophistiqué, mais certains se sont demandé même est-ce qu'il faut garder le chant, parce qu'on ne peut pas tout virer, hein, on garde juste la parole. Est-ce qu'on ne peut pas enlever le chant et la musique? Et il y a eu des débats. Et on les retrouve un petit peu aujourd'hui, mais en moins tranchés, parce que Vous avez des personnes comme Calvin, Jean Calvin par exemple, qui ont dit on va supprimer la musique. Donc l'accompagnement musical, l'instrument, si vous voulez. Et en gardant bien sûr le chant occupe une place importante dans la théologie de Calvin, dans sa réflexion, mais on va enlever la musique, il considère que la musique c'était pour l'ancienne alliance, la musique instrumentale, et donc il va essayer de réglementer la pratique du chant. Il faut dire que chez certains de nos prédécesseurs, il y a cette inquiétude à toutes les époques, en fait, est-ce que la musique n'a pas un effet qu'on ne peut pas maîtriser sur les gens, hein? Est-ce que la musique ne nous entraîne pas contre notre gré, quelque part, sur des voies qui pourraient être un petit peu risquées. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas si les musiciens ont un avis là-dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas dans la musique instrumentale une influence qui pourrait dépasser ce qu'on aurait voulu faire au début? Et donc ça, c'est la question de la manipulation éventuelle des émotions. Hein. Le culte, la direction du chant, la direction du culte, ce n'est pas une manipulation de l'auditoire, bien entendu. Hein, il ne s'agit pas de faire dire aux gens des choses qu'ils regretteront ensuite d'avoir dit, ou de faire faire aux gens des choses qu'ils regretteront ensuite d'avoir fait, mais il s'agit de les entraîner dans un mouvement qui est orienté vers le Seigneur selon sa parole. Voilà, bon, je ne vais pas en dire plus sur l'histoire. Ensuite, il y aura d'autres éléments qu'il faudrait mentionner, par exemple l'époque du piétisme, où on va introduire des chants qui seront un peu plus simples, qui seront plus porteurs des émotions des croyants, qui seront plus porteurs d'une foi directe, d'une foi simple. Il faut dire que dans l'héritage de la réforme, le chant, à un moment donné, va devenir un peu lourd. Il paraît que, je ne sais pas si Neil, tu me confirmerais ça, mais dans le Nouveau Monde, en Nouvelle-Angleterre, il y avait, disons, il y avait des moments où on chantait des chants qui pouvaient durer jusqu'à 20 minutes. Hein. Donc c'était très lent. Et voilà. Alors les prédications ont eu tendance aussi à s'allonger, les prières n'en parlons pas, et puis les chants à se ralentir. Et donc des courants ensuite vont réagir contre cela, vont simplifier les chants, vont les faire en mouvement. Et puis aujourd'hui, on a d'autres influences qui s'exercent également. On a les mouvements de réveil qui nous ont influencés, avec le chant qui a occupé une place importante pour la préparation de l'annonce de l'Évangile. Il y a les grands mouvements de jeunesse du XXe siècle qui ont utilisé le chant pour l'évangélisation. Il y a le pentecôtisme, le charismatisme, qui utilise le chant pour, en quelque sorte, transmettre un état d'esprit, transmettre une expérience spirituelle. Donc tout ça, eh bien, ça se retrouve aujourd'hui dans notre pratique. Voilà, je crois que je vais peut-être juste dire un mot de plus et je m'arrête. C'est ce qu'on dit toujours, hein. C'est ma troisième conclusion. C'est ce que je dis aux étudiants de ne pas faire. Hein. Je donne des cours de prédication et donc je leur dis, si vous dites je vais terminer, ben vous terminez. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Donc, un mot simplement sur le déroulement du culte. Hein. Notre culte, pour simplifier, assez souvent, il ressemble un peu à ça. Alors, ça va pas vers le bas, hein, mais j'ai mis comme ça pour parce que c'était plus simple au niveau de la présentation. Mais on va d'un accueil, une invitation à la louange, vers un temps de parole, prédication, puis la scène, ou parfois la scène vient avant, et puis une conclusion. Alors, il y aurait d'autres éléments à ajouter, comme la confession des péchés, qui assez souvent saute dans nos cultes, mais voilà, c'est comme ça, on pourrait peut-être la réintroduire. Mais simplement, au niveau des chants, comment ça fonctionne? Pour la première étape, bien sûr, dans ce temps d'accueil, de rassemblement, d'invitation, il y a des cantiques dans lesquels on va rappeler la présence de Dieu. C'est un temps où on va rappeler pourquoi on est là. Et donc, les cantiques qu'on va utiliser vont peut-être rappeler la grâce de Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que la grâce de Dieu nous a précédés, qu'elle nous a ouvert la voie. On va rappeler dans nos cantiques que Dieu est au commencement de toute chose, que nous n'avons pas pris l'initiative de nous rassembler. On ne va pas chanter « Seigneur, ben, on a eu envie de venir et on est là parce qu'on a planifié de le faire ». On va plutôt dire « Seigneur, tu as voulu que nous soyons là. Seigneur, tu as préparé le terrain, tu as ouvert la porte ». Tu as fait tout ce qu'il fallait pour que nous puissions être là aujourd'hui. Et donc, ce sont ce genre de cantiques-là qu'on va chanter. Et puis, ce sont aussi des cantiques de rassemblement qui vont dire, Seigneur, on vient de partout, mais on veut faire un seul peuple. On veut former une communauté. On veut vivre l'unité. Donc c'est aussi ce genre de cantique qu'on va choisir dans ce temps de rassemblement. Peut-être, ça peut être intéressant dans ce moment de début d'avoir des cantiques qui rappelleront la dimension universelle de l'Église. Seigneur, nous ne sommes pas les seuls. Et nous voulons le chanter parce qu'on sait qu'à notre chant va faire écho un autre chant, qui est celui de nos frères et sœurs en Syrie, celui de nos frères et sœurs en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, etc. Donc, des cantiques qui rappellent la dimension universelle de l'Église. Et puis ensuite, il y a la louange ou l'adoration qui va commencer. Et donc, cette louange, bien sûr, elle occupe une place importante dans nos chants. On va l'introduire par des paroles d'invitation à la louange. J'observe que parfois dans nos églises, on présuppose que la louange est une évidence. Mais non, le peuple de Dieu a besoin de s'entendre dire « Peuple de Dieu, loue ton Seigneur, peuple de Dieu, adore ton Seigneur ». Parce que quand on arrive le dimanche matin pour le culte, eh bien, on n'est pas naturellement dans une attitude de louange, on n'est pas naturellement porté à l'adoration. On a besoin de paroles d'exhortation, on a besoin de paroles bibliques, d'invitation. Peuple de Dieu, lève-toi et loue le Seigneur parce qu'il a fait de grandes choses, parce qu'il est ton sauveur, etc. Et donc là, il y a des chants peut-être qui vont commencer par célébrer la grandeur de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui est au-dessus de tout, au-dessus des puissances, au-dessus, etc. Vous connaissez peut-être le cantique. Et puis ensuite, des chants qui vont s'orienter vers Jésus-Christ, Jésus-Christ le Sauveur, Jésus-Christ le Seigneur. Et donc, on va passer peut-être du Dieu grand, du Dieu créateur, du Dieu impressionnant, au Dieu qui s'est approché de nous en Jésus-Christ. Et donc, on va aller vers une adoration qui sera plus intime, plus proche, adorer le Père céleste et adorer son Fils Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Voilà quelques idées, mais je m'arrête là, cette fois c'est le dernier. Merci de votre écoute.
Merci Christophe. Comme dit, quelques minutes avant qu'on chante le chant. Tu pourras aussi dire si tu veux bien. Et s'il y a des questions de compréhension sur ce que Christophe a partagé, sans rentrer dans le débat qu'on engage le groupe en fin de la matinée. Ça peut porter sur le nombre de conclusions aussi.
Question par rapport à ce qui est encore affiché, accueil et invitation à la louange, est-ce qu'on n'invite pas plutôt l'assemblée à venir dans la présence de Dieu ? La louange, c'est comment on pourrait ?
Oui. Oui, c'est vrai, on pourrait décomposer, hein, ça serait intéressant effectivement de décomposer l'accueil en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on peut saluer les gens, on peut prendre acte du fait qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Et je dirais, venir dans la présence de Dieu, peut-être moi je le traduirais un tout petit peu différemment, je dirais prendre conscience hein, de cette présence de Dieu qui nous a précédés dans ce temps de rassemblement. Et donc effectivement, inviter l'Assemblée à ouvrir les yeux sur cette présence, enfin les yeux du cœur, hein, et les yeux spirituels, pour vivre ce temps en ayant bien conscience que le Seigneur est là et qu'il est agissant. Oui, merci de venir.
Pour votre question. Je cherchais forcément à catégoriser tous les mouvements un peu comme une sonde, comme ça. C'est plutôt alors dans le mouvement pentecôtiste, là où on serait comme que ça cherche à transmettre une expérience féminine.
Alors ils sont au départ ces assemblées de Dieu en Australie, hein, donc c'est clairement pentecôtiste. En France, ils ne sont pas rattachés aux assemblées de Dieu du tout, mais voilà, c'est un mouvement. Alors le chant que j'ai choisi vient de Hillsong, justement. Je l'ai choisi pour ça, parce qu'à la fois, Hillsong, c'est un mouvement très influent, donc c'est un culte de louange, une évangélisation par la louange. Hein. Donc c'est un mouvement qui a une grande influence dans les grandes villes du monde d'aujourd'hui. Et en même temps qui est polémique, qui est très débattu. Moi, ce que je regrette le plus sur Hillsong, c'est pas la seule chose, mais j'apprécie certaines choses qu'ils font, c'est qu'en fait, c'est comme une marque déposée, c'est-à-dire qu'ils chantent que les chants d'Hillsong. Et donc, je trouve dommage que l'Église ne puisse pas s'ouvrir davantage sur le monde. Hein. On ne peut pas chanter que des chants locaux, on ne peut pas chanter que nos propres chants. Et ça veut dire que sinon, qu'on pense qu'on est les seuls à adorer le Seigneur, et donc il faut absolument qu'il y ait une ouverture et qu'on connaisse les chants que connaissent les autres, parce que sinon quand on se rassemble, qu'est-ce qu'on fait hein, quand on fait des rassemblements inter-église. Donc voilà, je vais situer, c'est un mouvement qui est particulier, évangélisation par la louange, beaucoup de place à la musique, le culte en gros c'est musique et prédication, une prédication qui est assez longue, assez concrète, pratique, je ne veux pas les catégoriser trop non plus, mais c'est un peu ce que je dirais.
Donc j'ai trop dit mon chant.
Alors voilà, c'est Darlene Zech qui a été la compositrice emblématique des songs. Maintenant, elle n'est plus à une song, elle est pasteur de l'église en Australie. Mais c'est au Jésus mon sauveur. Et donc c'est traduit de l'anglais. Je trouve que c'est un très beau chant. Donc j'ai conscience hein, des polémiques liées à une song. Mais c'est un très beau chant qui est centré sur Jésus-Christ, qui est porteur d'une vraie ferveur pour Jésus, par sa mélodie, par sa musique, par la simplicité de ses paroles, il permet vraiment au cœur du croyant de dire au Seigneur l'importance qu'il a pour lui, de dire que Jésus est notre tout, notre trésor, il est au cœur de notre vie, notre fortune.